Bonjour à tous. Dimanche de Pentecôte. Alors, je vais faire ce qu'on ne doit pas faire ce matin, c'est-à-dire que je vais refaire l'histoire du salut. Je vais faire une autre chose qu'on ne doit pas faire, c'est prendre tout un tas de textes bibliques, voilà. Et puis, j'espère que vous ne serez pas perdus en route, puis si jamais, ben, on fera les comptes à la sortie, puis on verra. Alors, on va commencer un chapitre en arrière, parce que vous avez vu sur le slide précédent Ézéchiel 37, mais on va se mettre dans le bain, si on peut dire comme ça, avec Ézéchiel 36. Je vous retirerai du milieu des autres peuples et des pays où vous habitez. Je vous rassemblerai et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous de l'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Un texte assez hallucinant déjà, si on peut dire les choses ainsi, parce que le peuple, là, il n'est pas bien installé, tranquille, cool, dans son pays où tout va bien, récolté, à faire les vendanges, etc. Il est déporté, il est loin de son pays, il a été pris par finalement une puissance étrangère, il est sous la domination, et c'est dans ce cadre-là que cette parole lui est donnée. Et puis, on lui dit, tu vas avoir un nouveau pays, tu vas y retourner, mais on lui dit plus que ça encore, on lui dit, tu vas avoir un cœur nouveau. Puis je pense qu'on peut le prendre aux deux niveaux, au niveau communautaire, toi le peuple, tu vas avoir un cœur nouveau, tu vas pouvoir marcher dans mes voies, mais aussi toi l'individu du peuple, toi chacune des personnes. Le cœur, évidemment, dans ce contexte-là, vous l'avez bien compris, ce n'est pas la pompe qui fait ploup, 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 et puis qui fait promener le sang dans le reste du corps. C'est beaucoup plus que ça dans la pensée biblique. Hein. C'est l'être intérieur complet, c'est les aspirations, les pensées, les sentiments, c'est tout ça qui est là-dedans. Mais on n'en reste pas à quelque chose de purement intérieur, de seulement mes pensées, comment moi je le vis dans mon petit cœur avec le Seigneur. Non, ça va plus loin que ça, parce qu'après, le peuple va marcher selon la volonté de Dieu. Donc ça va être du quelque chose de tout concret au jour le jour. Donc une capacité renouvelée à marcher selon la volonté du Seigneur, jour après jour, personnellement et en communauté. Alors, on pourrait presque s'arrêter déjà là, parce que finalement, la Pentecôte, la venue de l'Esprit qui nous donne la capacité de marcher selon la volonté du Seigneur, on a déjà fait une bonne première étape. Mais on va continuer avec Ézéchiel 37. Ah oui, c'est gore. On va lire le texte et c'est gore. « Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a emmené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'eau. » Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, « Dis-moi, l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » On a entendu tout à l'heure le psaume 23, David, en introduction. Et puis là, on entendait, « Voilà, tu me fais marcher dans de verts pâturages, tu me conduis auprès des eaux tranquilles, etc. » Merveilleux texte. Puis je pense que pour beaucoup d'entre nous, on se l'imagine. On le voit, on se voit tel la brebis galopant dans les verts pâturages, on voit l'eau qui arrive tranquillement, on l'écoute. Et là, dans Ézéchiel, c'est encore autre chose. Hein. Dieu l'emmène vraiment, ce n'est pas juste dans sa pensée, hein, il est comme saisi en esprit, on ne sait pas trop si c'est vraiment vrai ou si c'est une vision que le Seigneur lui donne, mais il le vit complètement, il est complètement là-dedans, immergé dans cette vision. Et puis là, la vision, ben, ce n'est pas les verts pâturages, c'est des eaux et des eaux complètement desséchées, secs, foutues. Ce n'est pas à moitié cuit. Hein. Des fois, il y a des solutions. On se dit, attends, on va pouvoir peut-être un peu le rattraper. Ce n'est pas si grave. On va pouvoir réparer la chose. Je vais chercher un peu de pâte à coller, du scotch, une perceuse. On va y arriver. Là, c'est fini, complètement fini, mort de chez mort. On n'est pas à l'étape où on peut encore essayer une espèce de manœuvre de réanimation, quelque chose comme ça. C'est cuit. Et puis la question du Seigneur, là au milieu, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Dis-moi, l'homme. C'est un peu une drôle de question. Hein. Je ne sais pas comment vous la vivez. Alors, moi, je me demande comment il l'a compris. Est-ce qu'il s'est dit, il y a un truc, le Seigneur va faire quelque chose, alors je me méfie, puis je lui dis, c'est toi? Ou bien est-ce que c'est une manière de dire, écoute, c'est cuit, là, hein? Je ne sais pas, vous pouvez le voir comme vous voulez. C'est plus qu'un peu foutu dans cette situation. Alors, avançons encore un petit peu, puis suivons Ézéchiel. Il me dit alors, parle à ces eaux comme un prophète, dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Là aussi, moi, je trouve ça presque drôle. Dire à des eaux, parler à des eaux complètement secs, c'est un peu spécial. Hein. Et puis, ils sont complètement secs. Hein. Vous qui êtes secs, c'est pas vous les eaux qui allez bientôt, je sais pas quoi. Vous qui êtes complètement secs, écoutez la parole du Seigneur. Comment on peut dire à des eaux d'écouter? C'est un peu spécial. Moi, ce que j'en retiens, c'est que Dieu s'adresse ici aussi à ceux qui ont besoin de lui. Il ne s'adresse pas seulement aux petites brebis où tout va bien, ou qui suivent le berger dans la bonne manière, et puis qui ont tout compris, et puis qui suivent le bon chemin. Là, c'est cuit de chez cuit, mais il y a encore une possibilité de suivre le Seigneur ou d'être à son écoute. C'est un peu fou, cette histoire. C'est aussi intéressant parce que quand on repense à Ézéchiel, c'était quoi dans les chapitres du début? C'était pas « tout va bien dans le meilleur des mondes ». C'était aussi des paroles plus dures, plus difficiles. Puis là, on a un prophète qui est amené, dans la situation complètement horrible et difficile, à prendre la parole de la part du Seigneur. Et puis là, il vient pas pour se retroussant les manches en disant « voilà, je vais vous passer la patte ». Et là, il dit « écoutez, le Seigneur a quelque chose à vous dire ». Et puis, il va amener, comme on va le voir, une parole de grâce. Ça clignote beaucoup chez moi, chez vous ça a l'air d'aller. Bon, ben c'est parfait. Voici ce que le Seigneur vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vais vous couvrir de peau. Je mettrai un souffle de vie, et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Intéressant, parce que ce texte, il rappelle déjà celui du chapitre d'avant, où Dieu disait « je vais mettre en vous mon esprit, je vais vous donner un cœur nouveau ». Là, on y revient, de nouveau, « je vais mettre mon esprit en vous et je vais vous redonner la vie ». C'est intéressant, parce que si vous regardez le texte, au début, il est fait mention de l'esprit de vie, ensuite, il y a la chair, les nerfs, la peau, et puis de nouveau, l'esprit de vie. Tout ça marche ensemble. On pourrait dire parfois, on a l'impression que voilà, il y a les aspects spirituels et puis il y a les aspects, comment est-ce qu'on va dire ça, corporels, réels, tangibles, physiques. Puis là, les deux vont vraiment ensemble. Hein. Il y a la partie corporelle et l'Esprit de Dieu, et les deux fonctionnent ensemble. Il y a la structure, on pourrait dire, et la vie. Et il n'y a pas d'opposition entre les deux, ça marche très bien ensemble. Ça, c'est peut-être bien aussi de s'en souvenir parfois en Église. Avançons encore un cran. Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les os se rapprochent les uns des autres. Je regarde, il y a sur eux des nerfs, de la chair pousse, les os les couvrent, mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Je ne sais pas à quoi ce texte vous fait penser, mais moi, étrangement, il m'a rappelé le texte de la Genèse. Dieu qui parle, et puis les choses qui se créent. Et puis là, on a quelque chose d'un peu similaire. Hein. Ce n'est pas un homme qui est créé à partir de rien, mais presque, c'est des os foutus qui sont là par terre. Et puis, ils reprennent vie petit à petit à l'écoute de la parole du Seigneur, qui recrée quelque part. On peut aussi se demander, en fait, si on s'arrête là, est-ce que c'est réussi? Est-ce que ça a marché? Ou est-ce que c'est un échec? Parce que finalement, il n'y a pas de vie en eux encore. C'est intéressant, je trouve, qu'on ait cette étape intermédiaire, parce que parfois, je ne sais pas comment vous le vivez, mais dans nos vies, c'est pareil. On se dit, ouais, alors j'en étais là, j'ai fait un pas, ça a bien avancé, mais je dois le comprendre. Comment maintenant? C'est réussi ou c'est pas réussi? Je suis à moitié guéri ou je ne suis pas du tout guéri? Ou j'ai pris les bonnes décisions, je ne les ai pas prises, j'ai pris le bon tournant, je ne l'ai pas pris? C'est pas toujours clair. Et Dieu ramène à la vie ce qui semble perdu. Ces eaux qui semblaient complètement finies, terminées, ben Dieu va les ramener à la vie. Et ce n'est pas complètement immédiat, pouf, comme ça d'un coup. Ça se fait étape par étape. Là, on a la chair, la peau, les nerfs, tout ça qui se met en place petit à petit. Et on va voir l'étape suivante parce qu'il manque encore quelque chose. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est l'Esprit qui vient faire cette œuvre. Et cette œuvre, eh ben, elle a des répercussions très concrètes. Ça ne reste pas non plus dans la tête ou dans le cœur de quelqu'un. C'est quelque chose qui vient vraiment changer la vie, c'est le cas de le dire, de ces eaux tout foutues. Ça porte des fruits concrets. Donc dans nos vies aussi, je crois que quand l'Esprit vient nous visiter, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on va vivre dans notre heure de prière, dans la semaine ou je ne sais pas quoi, où voilà, le Seigneur est avec nous, puis le reste de la semaine, ben, c'est comme d'habitude, il ne se passe rien, ça ne se voit pas à l'extérieur. Non, ça peut porter des fruits tout à fait concrets. La vie chrétienne, ce n'est pas un truc spiritualiste où c'est entre notre esprit et l'esprit du Seigneur, puis ça s'arrête là. Ce n'est pas une espèce d'ésotérisme égocentré où voilà, je prends mon heure de méditation, ça me fait beaucoup de bien, puis ensuite je retourne vivre ma vie normale de tous les jours. Alors, prenons la suite du texte. Alors le Seigneur me dit, « Toi, fils d'Adam, ou fils d'homme, vous pouvez le traduire comme vous voulez. » C'est intéressant, « fils d'Adam ». Là, je trouve que le lien avec la Genèse, on le voit bien, on l'entend bien. « Parle au souffle de vie de ma part, parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils vivront. » Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans les morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout, c'est une armée immense. Alors ce coup-ci, on peut dire que c'est réussi. La vie entre dans ces morts, c'est plus des os, c'est devenu des morts. On a déjà fait une première étape, on pourrait presque dire. Et là aussi, ça rappelle ce texte de la Genèse où Dieu vient souffler son esprit, son souffle de vie dans l'homme qui est là pour en faire un être complet, un être qui est beaucoup plus qu'un animal à ce stade-là. Dieu ordonne, et puis son envoyé, Ézéchiel, l'a obéi, et par sa parole et par l'esprit, les deux vont agir vraiment de concert, la vie est redonnée et le peuple est relevé. Parce que c'est le peuple, on va le voir dans la suite juste après. On a de la chance, parce qu'il y a des textes bibliques qui sont des fois vraiment difficiles à comprendre, mais parfois, certains, après le texte qui est donné, après la parabole, le Seigneur explique. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on va écouter l'explication. Ensuite, le Seigneur me dit, « Toi, l'homme, écoute, ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, « Nous sommes comme des eaux secs. Notre espoir est mort. Nous sommes perdus. » Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous, mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous le saurez, c'est moi le Seigneur qui ai parlé et je fais ce que je dis. Voici ce que le Seigneur déclare. Donc, ces eaux desséchées, c'est une image forte pour le peuple qui se sent comme anéanti, à plat, au bout du rouleau, sans espoir. Et qu'est-ce qui se passe face à ça ? Ben, il n'y a pas un Dieu qui vient et qui dit « Dis donc les amis, je crois que je vous avais expliqué que ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. C'est quoi ce découragement-là ? Ça ne va pas ?» Non, on a un Dieu qui vient et puis qui relève, qui restaure. Face au découragement, face à la mort, face peut-être à la dépression, qui des fois sont des choses qui peuvent nous mettre à plat au bout du rouleau, on n'a pas un Dieu qui vient pour juger et condamner, on a un Dieu qui vient pour restaurer, face à la maladie, face aux pensées morbides, à la dépression. Et malheureusement, dans notre société, c'est des choses qui sont bel et bien présentes et qui peuvent tous nous toucher. Et Dieu annonce une glorieuse résurrection, Dieu annonce qu'il vient redonner un espoir, au cœur même de ces eaux, de cette vision complètement macabre. C'est en marche. Et puis, si on regarde ce qui est promis, là, quand Dieu dit « je vais venir, je vais vous reconduire dans votre pays », alors si on se replace dans la situation de l'époque, ça fait complètement sens, ils sont déportés, on leur dit « vous allez retourner au pays », c'est fort, « je vous ferai sortir de vos tombes », c'est gore, c'est presque un film d'horreur, cette histoire des morts qui se relèvent de leurs tombes, vous imaginez, les cercueils qui s'ouvrent et tout, c'est spécial quand même comme texte, Et puis ça va plus loin aussi, parce qu'il dit « je mettrai mon esprit en vous ». Et là, quand on repense à ce texte, et puis on pense au jour dans lequel on est, la Pentecôte, ce n'est pas tellement quelque chose qu'on a vu pour l'immédiat du peuple d'Israël. Quand ils ont eu fini la déportation, puis qu'ils sont retournés dans leur pays, il n'y a pas eu tout de suite l'esprit qui est venu, c'est venu bien plus tard, avec la Pentecôte. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». Donc ce n'est pas simplement « je mets mon esprit », il se passe encore quelque chose. Il n'y a pas seulement les eaux, la peau, les nerfs, il y a encore l'esprit de Dieu qui nous pousse plus loin. Et qui restaure notre espoir. Ça me donne aussi à penser une chose, c'est que c'est un peu comme, parfois dans la vie, il y a un peu comme des saisons. Alors, les saisons, il y en a plusieurs en général dans nos vies, quand on a plus qu'une année au compteur, c'est une bonne chose. Alors, on peut le voir comme on veut, on pourrait dire le temps du printemps, c'est le temps du renouveau, du commencement, l'été, c'est peut-être le temps des moissons, des grands accomplissements, l'automne, un temps riche en couleurs, le temps des vendanges, le temps pour nouer la gerbe, faire le point, et puis l'hiver, un temps de mise à l'épreuve, un temps de repos avant de partir dans une nouvelle étape. On peut le voir comme ça. Et puis, certainement que dans vos vies, il y a des temps chouettes, des temps de visitation du Seigneur, des temps où vous avez avancé de manière extrêmement forte, et puis des temps où ben, c'est différent, c'est plus difficile, où voilà, c'est une étape nécessaire pour la suivante. Et c'est bien ainsi. Et puis, en plus de ça, parfois la vie de Dieu, elle est complètement différente. Ce n'est pas juste une saison de plus, un retour du même, on n'est pas dans une vie qui est strictement cyclique. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui arrive et qui amène une nouveauté radicale. Là, les eaux, c'était, ouais, il y avait peut-être eu plein de saisons qui avaient passé, mais il n'allait rien se passer de plus avec un hiver de plus ou un été de plus, ça n'allait pas bouger. Il a fallu que Dieu intervienne et intervienne de manière complètement radicale. Si on revient un petit peu plus près de chez nous, on a fêté dernièrement Pâques et puis la résurrection. J'ai envie de vous dire, la résurrection, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose de complètement radicalement différent et nouveau. C'est l'événement majeur de l'univers. S'il y a un événement majeur dans l'univers, c'est celui-là. Il est peut-être même plus important que le Big Bang, parce que c'est bien de créer un univers, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la résurrection. Je discutais dernièrement avec un ami qui disait, ouais, finalement, peut-être qu'un peu toutes les religions se valent, c'est des manières de considérer Dieu, puis Dieu s'est révélé de manière différente chez les uns, chez les autres, donc finalement on peut l'approcher par plusieurs chemins. Ok, mais la résurrection, elle a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu? Parce que si elle a eu lieu et que c'est la mort de la mort qui a eu lieu à cet endroit-là, alors ça change tout le reste. Tout le reste à côté, c'est des belles théories, c'est peut-être des manières par lesquelles Dieu cherche l'homme. Mais voilà, si la résurrection a eu lieu, c'est un fait qui est plus important que tout le reste, qui remet tout le reste en cause. Le relativisme, là, il s'en prend un coup, je dirais même, il est mort, le relativisme. Parce que soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. Suivant comment vous répondez à cette question, là, Paul le dit bien, c'est la pierre angulaire de la foi chrétienne. S'il y a la résurrection, alors ok, on est dans la vie du Seigneur. S'il n'y a pas eu résurrection, on se berce d'illusions. Il n'y a pas d'autre choix. Alors quel lien avec nous en tout ça? Alors on a fêté Pâques. Pâques, c'est le rappel de la vie du Christ qui est donné à notre place pour notre salut. On célèbre que Christ est mort et ressuscité. Les eaux, la vie, on pourrait presque dire. On le célèbre, puis on va le célébrer encore tout à l'heure en partageant la scène. C'est chouette aussi qu'on ait ces étapes dans la vie chrétienne, puis qu'on puisse nous aussi se réimmerger, presque comme avoir à nouveau ces visions de ce que Dieu a fait pour nous, et puis le vivre et le vivre ensemble. Et puis Dieu n'a pas laissé Christ dans la tombe, il ne l'a pas laissé comme ça pourrir, mais il l'a relevé. Et c'est beaucoup mieux que de ne pas mourir, ou de vivre longtemps. Il est mort complètement, complètement foutu, 3 jours dans la tombe, pas à moitié pendant 10 minutes, puis on a pu le ressusciter, non. 3 jours mort dans la tombe et il a été relevé. C'est aussi une promesse pour nous. C'est une promesse que Dieu ne nous laisse pas mourir dans la tombe, ne nous laisse pas dans nos problèmes sans fin, mais qui nous relèvera et que sa puissance de résurrection peut venir vers nous, qu'il nous enverra son esprit, qui nous rendra la vie. C'est la promesse que Dieu ne laisse pas la mort avoir le dernier mot. Finalement, la croix, elle nous annonce la fin du règne de la mort. Ensuite, on a fêté l'ascension. Christ est élevé à la droite de Dieu. C'est un peu bizarre cette histoire de l'ascension, parce que finalement, c'est de nouveau une étape de plus. Christ est venu, il est mort, on pourrait dire quelque part, il est parti, il n'était plus là, il est revenu à la vie, et puis hop, voilà qu'il repart en haut dans le ciel. Alors on pourrait se dire, ah ben zut, on l'avait récupéré, voilà qu'on le repère. Et puis, je crois qu'il avait vu venir cette possibilité, parce qu'il a dit aux disciples qu'il était avantageux pour eux qu'il s'en aille. Hein. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. Il l'a dit juste avant la croix. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir en aide ne viendra pas à vous. Et celui qui doit venir en aide ici, c'est difficile à traduire, c'est le paraclète, c'est le consolateur, c'est l'aide, c'est celui qui doit être auprès de vous, c'est celui qui est appelé à vos côtés, littéralement dans le grec, c'est l'Esprit-Saint. Et Jean parle comme ça de l'Esprit-Saint. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc, il établit son règne en montant en haut, auprès du Père, assis auprès du Père. C'est déjà vrai qu'il règne auprès du Père, mais c'est aussi encore en attente, encore en devenir. Là aussi, on est un peu comme coincé entre il y a les os, la peau et le reste, mais ce n'est pas complètement fini. Il y a encore une étape à venir lors de son grand retour. Alors en attendant, on peut déjà crier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme on aime le prier, mais il y a encore du boulot, il y a encore une part où le Seigneur attend et sa révélation n'est pas encore complètement complète. Mais on peut déjà prendre espoir et garder espoir, parce qu'à la croix, tout s'est joué, tout est accompli, Christ l'a dit au moment de sa mort. Avançons encore un cran, jour de Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. Tiens, il y avait aussi un bruit tout à l'heure quand l'Esprit est venu pour rassembler les eaux. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler dans d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Là, je pense qu'on a une partie de l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel, la fin du texte. Je mettrai mon esprit en vous. On n'avait pas complètement avant dans l'histoire. Je saute quelques versets. Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, se met à dire d'une voix forte, « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9h du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et mes servantes. Et ils parleront de ma part. » Un peu plus loin encore, « Non, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. C'est Jésus, Dieu l'a relevé de la mort. Nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite. Il a reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » On fête aujourd'hui la Pentecôte. Là aussi, un renouvellement complet. On va se replacer un tout petit peu aussi dans le contexte. Pierre, il y a quelques jours, quelques semaines, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait nié devant une servante qu'il connaissait le Christ et s'en était après amèrement repenti. Aujourd'hui, il se lève. Saisi par l'Esprit Saint, il parle au nom du Seigneur, complètement transformé. Les disciples, ils étaient où? Ils étaient tous rassemblés ensemble, probablement dans une pièce, dans une chambre haute. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment en route, en chemin? Je pense qu'ils étaient un peu complètement perdus. Il y avait eu la mort, il y avait eu la résurrection, puis maintenant. Ils étaient un peu dans cette espèce d'entre-deux, de « ouais, il y a un bout de corps, il y a un bout de structure, on a fait un bout de chemin, mais c'est quoi la suite ?» Ils n'étaient pas complètement au clair, on leur avait dit « il faut attendre la venue de l'Esprit Saint. » Donc ils sont encore un peu dans un état de torpeur avant de partir en mission. Mais une fois que l'Esprit est venu, alors là, ça va démarrer. C'est le début des actes des apôtres, c'est au chapitre 2, hein, on y est, et après ils vont se mettre en route, et c'est l'histoire de l'Église qui va démarrer. Et quelque part, ils sont le nouveau peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'ancien peuple est congédié, puis que voilà, les Juifs s'est oublié, puis que le Seigneur s'est choisi un nouveau peuple, non. Les deux vont pouvoir marcher ensemble. Mais voilà, il y a un peuple là que Dieu s'est acquis, qu'il lève par son esprit, qu'il met en route pour annoncer la parole, et pour agir selon sa volonté. Et puis, on pourrait dire, voilà, c'est fait, l'Esprit a été donné. Mais c'est la première fois qu'il est donné aussi largement, mais c'est de loin pas la dernière. Si on relit les actes des apôtres, il y a plusieurs fois où l'Esprit de Dieu va être à nouveau envoyé sur les gens qui sont rassemblés, sur les uns, sur les autres, sur ceux qui écoutent Pierre, sur ceux qui sont ici ou là, où l'Esprit de Dieu va les visiter, parfois de manière attendue, parfois de manière un peu moins attendue. Donc c'est pas terminé, cette histoire de l'Esprit qui nous visite, pas du tout. Un autre texte encore qui nous aidera à terminer quelque part. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon sa grâce, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Celui-là, vous pouvez le noter, je pense qu'on peut... Hein, c'est riche. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a bien fait, c'est pas parce qu'on était au bon endroit au bon moment, c'est pas à cause de nos œuvres de justice, de nos beaux efforts, c'est par sa grâce, à cause de sa grâce. Et puis, qu'est-ce qui est promis ici ? Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je crois que tous ces textes, ce matin, ils nous parlent que Dieu veut nous renouveler, qu'il veut recréer ce qui est perdu, qu'il veut relever ce qui est mort, qu'il veut redonner une espérance là où il n'y en a plus. Et c'est sa volonté de nous renouveler et de le faire. Il place en nous son esprit, il nous l'a dit, il nous l'a promis. Plusieurs fois, on le voit dans tous ces textes, c'est comme un refrain qui vient et revient et revient, en disant, voilà, je vais vous relever, je vais vous sortir de vos tombes, je vais mettre mon esprit en vous et vous vivrez. Et il nous appelle après à être porteurs de cette vie et de rester à son écoute. Je me suis demandé aussi, finalement, cette structure, ces os, c'est tout ça, qu'est-ce que ça peut être pour nous, chrétiens ? Parce que recevoir l'Esprit, peut-être qu'on comprend quelque chose ce matin, mais ça pourrait être quoi, cette structure, peut-être, qui est la plus physique, plus tangible ? Alors, c'est peut-être la lecture de la parole, parce que là, il y a quelque chose d'écrit sur lequel on peut s'appuyer, et je pense que c'est important. Et il y a peut-être d'autres choses, comme fêter la Pentecôte, fêter la Pâque, fêter l'Ascension, prendre la scène, prendre le baptême, et puis ensemble, se retrouver en tant que communauté pour être encouragé. Là aussi, il y a une structure qui est une structure de vie, comme des saisons, comme les choses que le Seigneur nous a données. Il y a des nuits, il y a des jours, il y a des saisons. Il nous donne aussi des moyens dans l'Église de vivre cela et de vivre de manière, on va dire, régulière. Alors on va récapituler, puis on va s'arrêter. La phrase clé que je vous propose de mémoriser ce matin, c'est « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». Donc le Seigneur relève son peuple, le Seigneur renouvelle notre espérance. Il ramène à la vie ce qui est perdu. Et le Seigneur se lève un peuple qui marche selon son cœur, le sens même de la Pentecôte. Alors, il reste une question, c'est moi, j'en suis où ? Alors, ce n'est pas des étapes que vous devez faire l'une après l'autre, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir où on est, puis quel est le prochain pas. Et puis, il n'y a pas des meilleurs ou des pas meilleurs, ou je ne sais pas quoi, c'est la grâce du Seigneur qui nous prend là où on est. Alors peut-être que pour certaines choses dans nos vies, ou pour l'ensemble de nos vies, on se sent comme sec, mort, desséché, sans espoir. Alors là, le Seigneur vient et dit, voilà, je vais te relever, je t'envoie mon esprit, je vais te remettre sur tes pieds, je vais reconstruire. Et ça, c'est une œuvre que seul le Seigneur peut faire. Peut-être qu'au contraire, il y a tout ce qu'il faut, comme muscle, comme peau, comme nerf, tout ça, c'est bien là, ça fonctionne. Mais c'est un peu comme un corps sans vie, un zombie. Voilà, je suis là, puis je donne toutes les apparences que tout va bien, mais au fond, c'est mort. Au fond, il y a des trucs là, ça ne le fait pas. J'ai besoin de la vie du Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé. Je suis à bout de souffle. J'aime bien cette expression, à bout de souffle, parce que ça montre qu'on a besoin du souffle du Seigneur pour nous remettre en route. Peut-être que comme les disciples, je suis bien vivant, je suis dans la chambre haute, et puis j'attends. Et puis la seule chose, c'est de dire, Seigneur, renouvelle-moi. J'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être envoyé à nouveau. Peut-être que je suis simplement appelé à une nouvelle saison, une nouvelle étape, parce que voilà, les disciples, il y a eu encore plein d'autres étapes après. Ou peut-être que, comme Ézéchiel, je suis appelé à en relever d'autres, à amener des paroles de vie qui vont permettre à d'autres de reprendre vie. Alors ça, c'est entre vous et le Seigneur, c'est pas moi qui peux vous le dire. Donc je vais vous laisser quelques instants de silence, après David reprendra la main, juste pour vous placer devant le Seigneur, puis peut-être dire, Seigneur, aide-moi à voir où j'en suis. Je sais que tu n'es pas là pour me condamner, même si je suis qu'un tas d'os desséché. Je sais que, y a de la grâce pour moi possible. Montre-moi où j'en suis, montre-moi quelle est la prochaine étape. Et puis si vous le souhaitez, en fin de culte, vous pourrez aussi prier avec les équipiers de Baraka pour l'une ou l'autre de ces situations, ou autre chose si le Seigneur vous parle d'autre chose. Voilà, je vous laisse dans un temps de silence.